Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Émission spéciale ce samedi dans le cadre de la journée climat chaud devant sur France Inter. 5 ans jour pour jour après la signature de l'accord de Paris, c'était le 12 décembre 2015 au terme de la COP21. 195 pays s'engageaient pour contenir, vous le savez, le réchauffement climatique et limiter l'élévation des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Accord célébré dans l'allégresse, présenté comme une avancée historique à l'époque. 5 ans après, on peut dire que le constat est amer et les nouveaux signes ne manquent pas, qui indiquent une accélération désastreuse du réchauffement climatique. Situation qui risque plus que jamais de mettre en péril la perpétuation de la vie humaine sur Terre. Et pourtant, quelques signes d'espoir, comme celui d'hier soir par exemple, après le Conseil européen qui se terminait tôt le matin. Que nous est-il permis d'espérer? L'avenir sera-t-il vert ou bien rouge? Invité exceptionnel dans le grand face-à-face, il était le président de la COP21. Et on se souvient de son coup de marteau, celui qui avait scellé l'engagement pris à Paris. Et puisque l'heure est au bilan, il publie Rouge Carbone aux éditions de l'Observatoire. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, sera au micro d'Inter dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Et pour commencer, sommaire chargé, mais d'abord ça.
Ce pas en avant afin de faire en sorte que nous soyons dotés comme Union européenne des capacités financières pour faire face à la transition climatique, à la transition digitale, relever la tête parce que nous savons que ce Covid est un choc et qu'il nécessite que nous agissions ensemble en faisant en sorte que nos valeurs puissent être prises en considération.
C'était un moment important dans la vie de l'Union. Vous venez d'entendre la voix du président du Conseil européen, Charles Michel. Hier, après une nuit blanche passée à négocier, les chefs d'État et de gouvernement des 27 parvenaient à débloquer enfin le plan de relance pour faire face à l'épidémie de Covid. Des engagements pris aussi en matière climatique pour réduire d'au moins 55% les émissions de CO2 des pays de l'Union d'ici 2030. Vous l'entendiez dans le flash de Maria, mais nous y reviendrons évidemment avec Laurent Fabius. C'est le premier sujet à l'ordre du jour du duel. Gilles, vous vouliez y revenir. Pourquoi est-ce que c'est un moment si important dans ce que nous vivons, dans la crise que nous traversons, cette décision qui a été prise hier, mais qui pourtant semblait annoncée avec fanfare et trompette par Ursula von der Leyen il y a maintenant plusieurs mois, qui semblait acquise, qui semblait évidente?
Parce que on en a parlé ici même il y a une quinzaine de jours, il y avait eu un accord qui avait été arraché aux pays dits frugaux et que cet accord lui-même avait fait l'objet d'un veto de la part de la Pologne et de la Hongrie et qu'on était devant une impasse qui paralysait l'Union européenne non seulement pour le plan de relance mais même pour le budget des prochaines années. Et donc là, il y a un déblocage, je crois que c'est une bonne nouvelle parce que ce sont des sommes considérables qui vont pouvoir être dégagées et que ce qui est très important était la question du rythme, que ces sommes arrivent rapidement et le fait que ce veto polonais et hongrois ait pu être surmonté cette semaine est une bonne nouvelle. J'ajoute que c'est d'autant plus une bonne nouvelle que les concessions pour lever ce veto, je crois, ont été aussi limitées qu'il était possible. C'est-à-dire qu'il y a eu de la douceur sur la forme. Oui. La présidence allemande a essayé de trouver les voies d'un compromis au travers de ce qu'on a appelé une déclaration interprétative.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire de préciser, par exemple, que le cas polonais, le cas hongrois, comme les autres, sera examiné, je cite, de manière objective, juste et impartiale, qu'un certain nombre de recours seront possibles. Mais, donc, de la douceur sur la forme, mais de la rigueur sur le fond, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Il y a évidemment aucune modification de la conception que nous portons, nous, Européens, de l'état de droit. Il n'y a évidemment aucune procédure nouvelle qui a été proposée aux Polonais, mais surtout, et c'est l'élément le plus important, il n'y a aucune correction dans le mécanisme de conditionnalité. C'est-à-dire que ce qui faisait blocage était que...
Oui, il faut le rappeler.
Ce qui faisait blocage, c'était que les sommes qui devaient être dégagées pour le plan de relance étaient conditionnées au respect par l'ensemble des États membres, et donc notamment par les Polonais et par les Hongrois, de l'état de droit. Et donc ce mécanisme-là, subsiste, et il subsiste, et c'est très important, par un vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire que les Polonais et les Hongrois ne pourront pas s'y opposer.
Natacha Polony.
Alors, je m'associe à Gilles pour ce qui est de constater qu'il y a là une avancée extrêmement importante et qui va dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une capacité de l'Union européenne à peser, en toute solidarité de chacun de ses membres, à peser sur son avenir et en particulier à investir massivement dans la transition écologique. Donc ça, c'est le point positif. Mmh. Et en effet, il le disait, les concessions sur la question de l'état de droit sont aujourd'hui assez limitées, même si en fait il y a une question de délai dans le traitement qui permet de dire que s'il y a une contestation de des politiques menées en Hongrie ou en Pologne, en fait les affaires ne seront traitées que autour de 2022, ce qui n'entrave pas les actions des gouvernements polonais et hongrois actuels.
Oui, parce qu'il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent qu'il y a des procédures en cours de Bruxelles pour des atteintes à l'indépendance de la justice ou des médias, notamment en Pologne et en Hongrie, mais ces procédures sont longues et elles ne sont pas près d'aboutir.
Voilà. Mais moi, disons le bémol que je voudrais apporter, et il n'est pas des moindres, c'est le fait que, certes, l'Union européenne avance. Certes, elle peut mettre en place un plan de relance tout en maintenant son idée de l'état de droit. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est le fait que certains pays, eux, peuvent porter atteinte à ce qui fait le fondement même de l'Union européenne, à savoir le fait que nous soyons des États qui décident d'être solidaires, d'aller dans le même sens et de défendre une conception commune des rapports non seulement démocratiques mais des rapports économiques. C'est-à-dire que quand les Pays-Bas réussissent à imposer le fait que la Hongrie, la Pologne ne puissent pas se dérober à leurs engagements sur la question de l'état de droit, c'est très bien, mais j'aimerais savoir à quel moment on va faire en sorte que les Pays-Bas ne puissent pas se dérober à la nécessaire solidarité européenne. Parce que les pays frugaux, eux, ont pu obtenir de très grosses concessions économiques dans leur participation à l'ensemble de l'action européenne. Et ils maintiennent, notamment pour les Pays-Bas, une forme de dumping fiscal qui mine l'Union européenne de l'intérieur. Alors, je trouve essentiel qu'on se batte pour la préservation de l'état de droit et qu'on combatte la politique actuelle des gouvernements polonais ou hongrois sur cette question-là. Mmh. Mais si on veut réellement que l'Europe ne soit pas autre chose qu'un grand marché ouvert à tous les vents qui facilite la vie des multinationales qui recherchent toujours à payer le moins d'impôts possible, si on veut vraiment que des impôts rentrent en Europe pour payer ce qui doit être payé, notamment les investissements en matière d'écologie, il serait bon aussi de faire pression sur des pays comme les Pays-Bas.
Gilles Finkelstein.
Alors, il y a deux bémols de Natacha. Un bémol qui est spécifique sur l'accord sur le plan de relance et un bémol qui est plus général. Sur le bémol plus spécifique, je partage ce que dit Natacha sur un point, c'est-à-dire que dans cet accord, mais c'est pas cet accord, c'est dans le fonctionnement de l'Union européenne, les Polonais et les Hongrois, pas en introduisant un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, peuvent gagner du temps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si au terme de ce recours, il est considéré par la Cour qu'ils ont violé l'état de droit, les sommes qu'ils ont reçues devront être remboursées. Et puis, sur le bémol plus général, moi, ce qui me frappe quand je regarde ce qui s'est passé dans la semaine, dans l'Union européenne,
oui,
dans un moment dans lequel, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde la Russie, quand on regarde la Chine, quand on regarde l'Inde, les choses ne vont pas dans la bonne direction. Je trouve que c'est une bonne semaine pour l'Europe et que les choses sont allées dans la bonne direction. Il y a eu davantage de volonté. On y reviendra tout à l'heure sur la question climatique avec
bien
le rehaussement des objectifs.
Fabius.
C'est vrai sur le plan numérique avec les directives qui ont été présentées. C'est vrai sur le plan économique avec non seulement le plan de relance de la Commission, mais également ce qu'a annoncé la Banque Centrale Européenne dans son plan de soutien à l'économie qui est à la fois plus important et qui dure plus longtemps. Et il y a eu aussi, je termine par là, davantage, pas seulement davantage de volonté, mais aussi davantage d'unité de la part de l'Union européenne. J'ai été très frappé dans les négociations avec Boris Johnson et le Royaume-Uni sur le Brexit, que aussi bien le président de la République française que la chancelière allemande ne prennent pas Boris Johnson au téléphone en lui disant « ceux qui négocient, c'est la Commission européenne au nom de tous les Européens ». On a vu sur la crise sanitaire que les Européens sont partis en ordre dispersé. Là, c'est une agence européenne qui va valider les vaccins. On a vu cette semaine que les Européens essayent de faire en sorte que le premier voyage en Europe de Joe Biden soit auprès des institutions européennes. Et même si c'est sans doute insuffisant, il y a eu là un premier pas vers des sanctions de l'Europe envers la Turquie. Donc, on peut considérer que tout ça est insuffisant, que ça va pas assez vite, que ça va pas assez loin. Mais quand on regarde le monde, je trouve que c'est plutôt une bonne semaine pour l'Europe.
Bonne semaine pour l'Europe, Natacha ?
Alors, tous les éléments que cite Gilles sont tout à fait justes et en effet, on peut considérer que tout cela va dans le bon sens. En revanche, cette semaine, nous avons vu aussi, en France, or c'est lié avec la politique européenne, le retour de du spectre des réformes, qui sont des réformes qui en fait vont faire payer les contribuables et les citoyens français, que ce soit la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que ce qui est exigé de la part notamment de l'Union européenne et en particulier des pays frugaux, c'est qu'en effet ces réformes-là soient maintenues. C'est une sorte de donnant-donnant dans le cadre du plan de relance. Et puis c'est une politique voulue par certains, notamment par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, alors même que cette semaine, on apprend par exemple que le Suédois Nokia, qui était le repreneur d'Alcatel-Lucent, en fait détruit 980 emplois en France de façon totalement unilatérale, sans tenir compte de ses engagements et des aides de l'État. C'est le cas aussi de l'américain Kohler, avec le fabricant de matériel sanitaire de Lafon. C'est le cas de General Electric. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans un contexte où la politique est de réduire petit à petit les protections, les droits sociaux, et de laisser des grandes entreprises dans une structure de compétitivité qui les incite aux délocalisations. Or ça, je pense que tant que l'Union européenne ne sera pas dans une politique qui tienne compte de cela, qui empêche que son système fasse des gagnants les multinationales qui, elles, ne respectent pas leurs engagements, l'Union européenne, finalement, ne pourra pas convaincre les citoyens des pays européens. Donc il y a des avancées. En revanche, on reste dans le même cadre et c'est cela qui m'inquiète.
Et on reprendra évidemment ce débat sur l'Europe entre vous, Natacha, et Gilles. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Je crois que personne ne peut cautionner ce qui a eu lieu et on a décidé de rester ensemble, unis. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter ce genre de choses, de faire des différences par rapport à la couleur de peau, la race. C'est inadmissible dans le football, dans la vie en général. Ce n'est acceptable nulle part dans le monde.
La dernière voix que vous avez entendue est celle de l'attaquant parisien Neymar. La veille, c'était mercredi, la veille mardi, les joueurs du PSG et ceux d'Istanbul Başakşehir décidaient de quitter le terrain après quelques minutes à peine d'un match en Ligue des Champions. Rencontre interrompue après les propos racistes de l'un des arbitres à l'encontre d'un entraîneur adjoint du club turc, Pierre-Achille Webo. C'est ce que vous entendiez en tout début d'extrait sonore. Le noir là-bas, je cite, va voir qui c'est, il ne peut pas se comporter comme ça. Le noir, là. C'est une première dans l'histoire de la Ligue des Champions. Sport et politique, les sportifs pris dans des enjeux politiques et dans des décisions qui sont lourdes de symboles. Natacha, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je pense qu'il y a à la fois quelque chose d'extrêmement positif dans le fait qu'enfin le racisme soit dénoncé, notamment dans le milieu sportif où il était très répandu. Et on a en tête des matchs avec des attaques racistes contre des joueurs qui étaient totalement insupportables. On pourra aussi parler de la décision de, par exemple, d'Antoine Griezmann de rompre son contrat avec Huawei, où là on voit que la question de l'image est en train de faire peser sur certaines grandes entreprises le regard des citoyens, ou en tout cas de certains qui se veulent leur porte-parole.
Grisou qui reproche à son sport Huawei, sponsor chinois, de faire travailler de force des Ouïghours pour produire leurs appareils.
Voilà. Oui, donc là, il y a indéniablement des choses, des avancées, des choses positives, très intéressantes, qu'il faut contrebalancer par le fait que j'ai tout de même été frappée dans cet incident, cet événement du match interrompu pour les paroles de cet arbitre de touche. J'ai été frappée par une forme d'unanimisme que je trouvais totalement excessif, comme si cet événement-là était absolument historique. Or, l'extrait que nous avons entendu montre qu'il y a certes quelque chose, disons une façon de s'exprimer plus que maladroite de la part de cet arbitre de touche, mais qu'il y a eu une forme d'excès dans la réaction, puisque on entend bien Pierre-Achille Webo dire « why he says negro », or il n'a pas dit « negro », il a dit « negro », qui veut dire « noir », ce qui déjà montre une montée en puissance. Et pourquoi ça? J'ai l'air de pinailler là-dessus.
Oui.
Mais c'est important, pourquoi?
Parce qu'il faut compléter la citation de Dembaba, en l'occurrence l'attaquant d'Istanbul, qui disait que ce blanc, tu diras cet homme, tu ne diras jamais, quand tu parles d'un homme blanc, ce blanc. Alors pourquoi est-ce que tu dis ça?
C'est toute la question. C'est toute la question. Et je pense en effet qu'il y a hélas beaucoup de cas où on dit ce noir et où on ne dirait pas ce blanc. Et donc c'est choquant, bien entendu, et donc ça révèle une forme de racisme. Mais il y a aujourd'hui un mouvement qui consiste à uniformiser tout cela, et en l'occurrence, j'aimerais connaître réellement la mentalité et les intentions de cet arbitre de touche, c'est-à-dire la question est de savoir, en gros, s'il avait dû désigner un homme blanc parmi des gens de couleur, aurait-il dit c'est le blanc là? Je ne sais pas. Et j'aimerais le savoir parce que la question de désigner le réel est importante. C'est-à-dire, pouvons-nous encore décrire le réel, ou bien y a-t-il des cas où nous considérons que décrire le réel implique une discrimination, puisqu'il y a un passé de discrimination contre les Noirs qui est totalement indéniable.
Gilles Finkelstein.
Écoutez, moi j'adore pinailler aussi, c'est le propre des jeux de l'esprit, mais je partage pas tout le pinaillage de Natacha en l'espèce. Je pense que ce qui s'est passé est important. On peut dire c'est une vieille histoire que celle des relations entre le sport et la politique. Ça fait bien longtemps que les sportifs manifestent leur opinion politique. On se souvient des gestes aux Jeux Olympiques de 1968.
Et plus beaucoup près de nous, de Paul Pogba en pleine guerre civile ivoirienne.
Voilà, et à beaucoup d'autres plus récemment. Dans l'autre sens, dans l'identification qu'il y a face à des sportifs, il y a souvent une dimension politique. On a évoqué il y a quelque temps la mort de Diego Maradona. Il y avait aussi une dimension politique du petit contre les gros. Mais je crois qu'il s'est passé là quelque chose qui est un tournant. Un tournant pour le football. Natacha l'a dit d'une certaine manière, là où il y avait des actes racistes ou des mots racistes, très souvent le joueur se retrouvait seul, y compris isolé de ses propres partenaires. Là, il y a eu une solidarité.
Et puis ça venait des spectateurs.
Non, oui, ça venait
et des supporters.
Bien
là,
sûr,
pour le coup,
là,
c'est
ça
face
venait d'un
à un stade vide ou quasi vide, et on a l'impression que les sportifs se sont réappropriés leur sport d'une certaine manière.
Exactement. Les sportifs se sont réappropriés leur sport, non seulement il n'a pas été isolé de ses propres partenaires, mais l'équipe adverse s'est solidarisée. Donc c'est important pour le football, c'est important pour le racisme, parce que quelle que soit l'interprétation de est-ce que c'est negro ou est-ce que c'est négro, on a progressé tous en roumain, ça montre une évolution de l'état de la société, quelque chose qui était accepté, n'est plus accepté. Et enfin, c'est important aussi sur les marques, sur les entreprises. Natacha l'a évoqué d'un mot. Jusqu'à présent, c'était les marques qui rompaient le contrat qu'elles avaient avec les sportifs lorsqu'il y avait un problème d'image.
Oui.
Là, c'est un renversement où pour la première fois, c'est un sportif qui rompt le contrat qu'il a avec une entreprise parce qu'il considère que son comportement n'est pas conforme à ses valeurs. Et ça s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement beaucoup plus vaste, dans lequel les entreprises ont de plus en plus intérêt à se préoccuper de pas seulement de ce qu'elles produisent, mais de la manière dont elles le font et de ce qu'est leur comportement.
Natacha, d'un mot avant le débat.
D'un mot. L'histoire du racisme contre les Noirs justifie une réaction et une sensibilité, et le fait qu'on ne juge pas de la même manière quand on parle d'un Noir ou quand on parle d'un Blanc, quand on essentialise un Noir ou quand on essentialise un Blanc, les conséquences ne sont pas les mêmes et ce que porte toute l'histoire de la langue n'est pas la même. Pour autant, un footballeur comme Wembaba, qui a été celui qui a vraiment monté en épingle cet incident, est plutôt coutumier des tweets et des réactions dans lesquelles il essentialise les Occidentaux, les Blancs. Et en fait, il ne faudrait pas que cette réaction normale, compréhensible et saine de joueurs contre le racisme qui existe dans le football nourrisse un moment où on voit actuellement une montée de l'identitarisme et de l'essentialisation de tous les côtés.
Histoire à suivre dans le grand face-à-face tout de suite, le débat avec le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius.